le Corse et l'Auvergnat.
Jérémy Gallon.
Romain Marcilli.
Bonjour Romain.
Bonjour Jérémy.
En ce mois de septembre, l'actualité est très riche, tant sur le plan national international, des élections cruciales en Europe, des discours marquants, le tout sur fond d'une guerre en Ukraine et d'une crise économique partie pour durer.
Comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique, de sport et de bien d'autres choses. Au programme de cet épisode, un retour sur le discours sur l'état de l'Union prononcé par Ursula von der Leyen devant le Parlement européen.
La Suède qui fait face à un basculement politique majeur.
Un bilan de fin de campagne des élections législatives en Italie à quelques jours du vote.
Et nous conclurons cet épisode, comme chaque semaine, par nos coups de cœur.
Jérémy, rentrons tout de suite avec un sujet qui fâche, enfin, qui nous fâche très légèrement, bien sûr, l'Europe. Un événement important a eu lieu la semaine dernière avec le discours sur l'état de l'Union prononcé par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Étant donné le contexte de la guerre russe en Ukraine et de la crise énergétique, ce discours était plus attendu que d'habitude. Et d'ailleurs, plusieurs chaînes françaises l'ont même pour la première fois diffusé intégralement en direct. Alors pour toi qui es un amoureux d'Europe et qui suit particulièrement l'actualité des institutions européennes, qu'as-tu pensé de ce discours? Est-ce qu'il a répondu positivement à tes attentes?
Alors, je pense que d'abord, le discours sur l'état de l'Union, il faut un petit peu le recontextualiser aussi pour nos auditeurs. Évidemment, quand on pense à un discours sur l'état de l'Union, on pense tout de suite au discours du président américain, du discours annuel. Et en fait, cette tradition a été importée et adoptée par l'Union européenne depuis 2010. Avant 2010, généralement, ce qui se passait, c'est que le président de la Commission européenne faisait un discours de politique générale au début de son mandat. Donc, une fois tous les 5 ans, tu avais un discours de politique générale prononcé par le président de la Commission européenne. Depuis José Manuel Barroso, donc le président portugais de la Commission, tu as eu en 2010, donc chaque année, un discours sur l'état de l'Union prononcé par le président de la Commission européenne devant le Parlement européen réunis en session plénière à Strasbourg. Ça a généralement lieu en septembre et ça permet au président de la Commission d'un petit peu faire un état des lieux de l'agenda législatif européen, mais aussi de dresser ses priorités. Donc ça, déjà, c'est un petit peu le contexte et c'est une tradition qui a été reprise ensuite par Jean-Claude Juncker et reprise par Ursula von der Leyen, qui prononçait là son 3e discours sur l'état de l'Union. Pour Ursula von der Leyen, donc l'actuelle présidente allemande de la Commission européenne, ce discours prend place aussi dans un contexte particulier. Tu l'as rappelé, contexte géopolitique avec la guerre en Ukraine, la crise énergétique, crise économique, mais aussi c'est un discours de mi-mandat pour elle, puisque son mandat a commencé fin 2019, se terminera en 2024. Donc c'est un moment assez crucial pour elle, où elle doit commencer à expliquer ce qu'elle a réussi à faire, ce qu'elle a réalisé, et puis également, quels sont ses objectifs pour les 2 prochaines années. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que son premier discours en 2020 avait été complètement dominé par la crise du Covid, à l'époque. L'année dernière, c'était plus un discours programmatique, où elle revenait un petit peu sur ses priorités, elle faisait un état des lieux. Et la commission von der Leyen, c'est une commission qui avait 3 axes majeurs quand elle a commencé. Le premier, c'était de dire, on va être une union géopolitique. Tu te rappelles, elle parlait d'une commission géopolitique, d'une union géopolitique. C'était le premier point.
Ce qui avait fait parler à l'époque et avait été contesté.
Tout à fait. Évidemment, là, ça a été un test majeur avec la crise en Ukraine. Et puis ensuite, il y avait 2 priorités majeures. Un, c'était la transition digitale. Et donc, notamment, toute une série de régulations sur les plateformes, sur la régulation sur Internet. Donc ça, c'était tout le volet digital. C'était un pan extrêmement important de l'agenda législatif européen. Et puis l'autre pan, c'était l'agenda environnemental, ce qu'on a appelé le pacte vert européen, avec toute une série de législations au niveau européen qui touchent à tous les secteurs de l'économie, que ce soit la finance, l'agriculture, mais aussi bien d'autres sujets. Et là, évidemment, on rentrait dans une nouvelle phase où en fait son défi, c'était de montrer qu'elle était capable d'adapter cet agenda législatif, notamment environnemental, un contexte de crise énergétique et économique.
Oui, alors sur la tradition et le nom même de cette tradition, discours sur l'état de l'Union, l'exercice est bien sûr positif, parce que si on le suit, on apprend des choses. Sur le nom, on comprend bien la logique, montrer qu'il y a une puissance parallèle, comparable à celle des États-Unis. Après, là, à mon avis, où c'est un peu risqué, c'est que le président de la Commission européenne, quel qu'il soit, n'a, à mon sens, ni la légitimité comparativement au président des États-Unis. C'est pas le même type de force politique par rapport à un homme politique élu par toute une nation. Et puis, après, mais ça, ce sont les aléas des nominations, ce sont pas forcément les mêmes charismes, si on se souvient de précédents discours de l'Union. Mais ça, ce n'est qu'une parenthèse. Sur ce discours, vraiment, dans le fond, il y a à prendre, il y a à laisser, bien évidemment, on va en discuter. Toi, quels sont les points qui t'ont semblé les plus importants ?
Alors, je reviendrai quand même sur la petite parenthèse que tu as faite, et tu te doutais bien que j'allais quand même pas te laisser...
Qui n'était pas innocente, bien évidemment.
Te laisser faire cette parenthèse sans réagir. Non, je ne suis pas fondamentalement en désaccord avec ce que tu dis. Néanmoins, je pense qu'il y a deux manières de le voir. Soit tu peux prendre ton approche et dire le président de la Commission européenne n'est pas élu, il n'a pas la légitimité, donc ce discours sur l'état de l'Union n'a pas lieu d'être. Mais tu peux aussi considérer, prendre la logique inverse, de dire si on veut relier nos concitoyens au projet européen, donner de la chair au projet européen, il faut aussi créer ce lien entre ceux qui incarnent l'Europe, et qu'on le veuille ou non, la présidente de la Commission européenne est aujourd'hui une des figures qui est censée incarner l'Europe, avec nos concitoyens. Et c'est un lien direct que tu crées. C'est aussi une manière de dire, à un moment donné, la présidente de la Commission doit expliquer aux citoyens européens ce qu'elle fait, quels sont ses objectifs. Ce qui est aussi, je trouve, sur le plan démocratique, assez sain, parce que ça permet d'éviter que la bulle bruxelloise travaille toute seule, un petit peu, refermée sur elle-même. Je ferme la parenthèse. Et sur la question du charisme ensuite, je te rejoins en partie. Non, sur les grands axes, ce qui était intéressant, c'est que c'était un discours qui finalement était quand même très consensuel, très sur le terrain des valeurs. C'était très marqué par la symbolique, évidemment, de la guerre ukrainienne. L'épouse du président Zelensky était présente, était à côté d'Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, elle-même, comme l'ensemble des femmes du Collège des commissaires européens, était habillée de jaune et de bleu. Toute la première partie du discours est consacrée, en fait, à dire que l'Europe a réagi avec courage à la crise ukrainienne. Ce qui peut paraître très consensuel, ce qui, dans les faits, c'est ce qui est vrai. Donc, on est sur quelque chose, là, uniquement, on va dire, de très politique, de très basé sur les valeurs. Ensuite, il y a d'autres parties du discours qui sont un petit peu plus, on va dire, dans les mesures. Et notamment, elle a consacré une grande partie de son discours à la crise énergétique, et notamment à ce qu'elle souhaitait que les États membres fassent dans ce domaine-là, notamment une taxation sur les super-profits des compagnies énergétiques, notamment gazières, mais elle a également appelé à une contribution des entreprises dans l'industrie pétrolière. Elle a ensuite présenté toute une série de mesures pour essayer un petit peu d'alléger le fardeau du prix de l'énergie sur les consommateurs. Mais c'est vrai que, à la fin de ce discours, tu te dis que c'est un discours qui avait surtout pour but, selon moi, de n'antagoniser aucune sensibilité politique au sein du Parlement européen. Et le dernier point, c'est que c'est pas si surprenant, parce que Ursula von der Leyen, c'est un secret pour personne, aimerait être conduite dans ses fonctions en 2024. Et là, elle aura besoin du soutien de toutes les forces politiques, pas simplement des chrétiens démocrates, qui est sa famille politique d'origine en Allemagne.
Tout à fait. Alors, moi, c'est plutôt au-delà des points très importants qui ont été soulevés sur la crise énergétique, c'est plutôt dans les deux ou trois points de détail de son discours qui m'ont quand même un peu fait tiquer. Et puis le diable, on le sait, est caché dans les détails, qui montre une confusion des genres sur deux points qui peuvent paraître anecdotiques dans le discours. Le premier, c'est qu'elle a abordé la question de la santé mentale. Alors moi, je pense que c'est très bien, c'est un thème qui est très important, qui a longtemps été refoulé du champ politique et médiatique, surtout pour ce qui concerne les jeunes. Donc c'est une vraie question de société. Et elle dit qu'elle veut lancer un grand chantier au niveau européen sur cette question. Alors moi, autant je te dis que je pense que la question est de première importance, autant j'ai du mal à comprendre en quoi cela doit être un chantier européen. Tu dis souvent, et c'est un argument de bon sens qu'on peut partager, que l'Union européenne, c'est ce qui est nécessaire au niveau mondial pour exister face à la Chine, face aux États-Unis, et voilà, ça je le comprends. Mais sur une problématique comme la santé mentale, en quoi a-t-on besoin d'Europe et pourquoi l'Europe finalement va-t-elle là-dessus ? Pour moi, cela sort totalement du principe de subsidiarité, c'est à chaque État de faire, et j'espère que la France va faire là-dessus, et a déjà un peu fait. Et puis ce que je n'aime pas, c'est qu'on retrouve finalement, et tu vas me dire peut-être que je suis un idéaliste européen, mais c'est qu'on retrouve finalement certains traits d'une même vacuité, d'une même théâtralité qu'on a au niveau national français. J'avais déjà eu quelques doutes sur Ursula von der Leyen lors des premiers jours du Covid, lorsqu'elle avait fait une vidéo un peu ridicule sur la manière de bien se laver les mains. Je me suis dit, tiens, voilà l'état nounou qu'on retrouve au niveau européen. Et là, dans le discours de l'autre jour, autre point, elle te sort un principe de solidarité intergénérationnelle à inclure, un nouveau principe à inclure dans les traités. Alors moi, je me demande bien ce que cela veut dire. En quoi tout cela peut être matérialisé dans du droit? Parce qu'en théorie, c'est le principe même de la politique que de mettre l'action publique au service de la continuité de l'histoire pour projeter le groupe. Donc en quoi est-ce donc nécessaire de mettre ça à nouveau dans un traité, même si ce n'est qu'un stade de projet? Je pense que cette bavardise affaiblit le droit. Et moi, j'avais longtemps vu l'Europe et le sérieux des institutions européennes comme un moyen d'éviter ce type de turpitude que l'on retrouvait particulièrement au niveau français. Mais tu vois, si c'est pour les retrouver puissance 10 au niveau européen, même si ce sont des détails, c'est un peu à désespérer de l'Europe.
Non, alors, sur les points que tu as mentionnés, moi, je suis d'accord. Hein. Je pense que dans son discours, il y a effectivement deux axes différents. Il y a le premier axe où elle revient sur ce qui est vraiment doit être au cœur des compétences européennes. Et c'est notamment, on l'a dit, sur le champ énergétique, comment tu augmentes l'indépendance énergétique européenne. Elle revient aussi sur la question de l'hydrogène, où elle fait quand même des annonces importantes et elle dit que l'Union européenne va investir massivement dans l'hydrogène. Sur la question commerciale, il y a quand même des choses intéressantes où elle dit qu'il faut continuer de mener un agenda commercial ambitieux, mais ce qui veut dire aussi mieux protéger le marché européen, les entreprises européennes, notamment sur les PME. Elle revient sur ce sujet-là. Donc, je pense que son discours n'est pas complètement dépourvu d'une dimension technique sur certains sujets qui doivent être au cœur de la souveraineté européenne. Le problème, et c'est là où je te rejoins, c'est qu'à mon avis, le vrai défi des décideurs européens aujourd'hui, c'est de parler sur ces sujets-là, sur ces sujets qui sont des sujets de compétences européennes, avec plus d'humanité, de chair, pour créer un lien avec nos concitoyens. La vraie question, c'est comment demain tu parles de commerce, comment tu parles demain d'énergie, de manière intelligible pour nos concitoyens. Mais c'est pas, effectivement, pour recréer un lien avec nos concitoyens, d'aller sur des terrains qui ne sont pas des prérogatives de l'Union européenne et qui sont, par ailleurs, des prérogatives où je suis d'accord avec toi, il y a une forme de vacuité un peu politique que tu retrouves déjà au niveau des États. Donc là, je pense que c'est une erreur qu'elle fait. Mais cette erreur, elle l'a fait en particulier, à mon avis en partie, parce qu'elle veut plaire au Parlement européen. Et ça pose quand même une question aujourd'hui sur ce qu'est devenu le Parlement européen. On est dans une situation paradoxale où le Parlement européen n'a jamais eu autant de pouvoir qu'aujourd'hui. Le Parlement européen, c'est quand même assez peu connu de nos concitoyens, on accorde souvent assez peu d'intérêt à cette élection, mais c'est quand même un Parlement aujourd'hui qui détermine par son action, ses votes, ses groupes de travail, une grande partie de la législation qui s'applique à nous au quotidien. Aujourd'hui, si tu es parlementaire européen, que tu es prêt à travailler dur, à t'impliquer dans tes dossiers, tu peux avoir une influence considérable, à mon avis plus importante que le législateur national, puisque quand même une grande partie de la législation qui s'applique à nous, c'est la législation européenne qui est transposée aujourd'hui. Le problème, c'est que le Parlement européen est devenu un Parlement de plus en plus d'activistes. C'est un Parlement paradoxalement, assez peu responsable. Et au moment même où il a plus de pouvoir, ça devient un Parlement qui est plus activiste, plus dominé par les ONG, par des sensibilités politiques qui ne sont pas toujours en prise avec la réalité, notamment de nos concitoyens, notamment de nos petites entreprises, notamment de ceux qui font l'économie au quotidien. Et donc, je pense que dans le discours de von der Leyen, tu sens clairement qu'elle veut plaire à un Parlement qui adore se draper dans les grandes déclarations, dans les postures de principe, et pas toujours dans les politiques publiques ou dans les politiques très concrètes. Et ça, je pense que c'est effectivement une des vraies faiblesses de l'Europe actuelle.
Ce qui pose des questions, et c'est un sujet qu'on pourra évoquer, à mon avis, au long cours, sur la dynamique entre le Parlement européen, les États membres, la Commission, surtout dans le cadre des propositions qui ont été faites à la fois par le chef d'État français, le chef de gouvernement allemand et reprise en partie par la présidente de la Commission sur une communauté politique et aussi sur une convention européenne qui a été évoquée en fin de discours, qui est un concept qui peut être très large, peut être interprété de manière très différente, mais qui, si on le comprend dans la version maximale, est une bombe politique, quelque chose qui peut changer durablement l'architecture du débat européen.
Oui, mais ce qu'il faut toujours rappeler, c'est que la Commission européenne et la présidente de la Commission européenne, en l'occurrence, ne sont que force de proposition. Il faut bien que nos concitoyens se le rappellent. La Commission européenne n'a aucun pouvoir décisionnel. La Commission européenne fait des propositions de texte, et ensuite, ce sont les États membres, c'est-à-dire le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen, qui décident. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Commission européenne, finalement, elle essaie toujours de trouver un équilibre dans ses propositions entre ce que veulent les États membres et ce que veulent le Parlement. Et à cet égard, le discours de von der Leyen, y compris cette dernière proposition, c'est d'un côté, on essaie de plaire aux États membres, et notamment, par exemple, elle reprend sur les questions de l'élargissement et d'une Europe qui demain serait à 36 États membres, exactement ce que disait Olaf Scholz et ce qu'on commentait dans un épisode récent, mais également sur la communauté politique européenne, elle essaie de reprendre l'idée du président Macron, même si elle en a une vision, à mon avis, assez maximaliste et qui n'est pas celle à l'origine qu'avait le président de la République. Et puis, en revanche, sur d'autres propositions, notamment celle de convention européenne, elle essaie plus, là, de plaire au Parlement européen. C'est un équilibre qu'elle essaie de trouver, mais au final, je trouve que son discours manquait de tranchant et ne permet clairement pas de relier le projet européen et de renouer le lien avec nos concitoyens.
Ce qui est d'autant plus dommage, puisque c'était une des premières fois qu'il était diffusé de manière si importante à la télévision française. Un sujet aussi qui était au cœur de son discours, dont on n'a pas beaucoup parlé, on en parlera une prochaine fois, c'était sur l'immigration. Là, je trouve aussi qu'elle a une vue un peu maximale des choses, mais c'est à discuter. Ce qui est certain, c'est que la question de l'immigration a été centrale, même plus que centrale, dans la dernière campagne législative d'un pays du nord de l'Union européenne, qui est la Suède. On peut même dire que ça a occupé une très grande partie des débats, ce qui explique aussi le résultat très serré d'un vote qui a conduit à un basculement, à un changement de majorité, puisque la majorité de gauche sortante, on va dire social-démocrate, a été renversée de très peu par une nouvelle majorité de droite, dans laquelle le parti le plus important, c'est le Parti démocrate de Suède, qui est un parti qu'en France, et on reviendra sur cette dénomination, on classe à l'extrême droite. C'est un pays qu'on aime beaucoup, la Suède. Qu'est-ce que tu penses de ces résultats et de cette campagne, surtout ?
Oui, je pense que ces élections du 11 septembre, elles ont été décrites dans la presse internationale comme un séisme politique en Suède. Je pense que finalement, elles s'inscrivent dans une tendance de fond qu'on observe depuis maintenant à peu près une quinzaine d'années en Suède. Et je pense que d'abord, il faut évidemment revenir sur les démocrates de Suède. Et juste pour nos auditeurs, il faudra faire attention parce que le parti de gauche qui domine la vie politique historique en Suède depuis 1917, qui a gagné toutes les élections, qui est arrivé premier à toutes les élections depuis 1917, ce sont les sociaux-démocrates. Et le parti dit d'extrême droite, même si on pourra revenir sur cette dénomination, c'est les démocrates de Suède. Donc il faut juste faire attention.
Tous ces démocrates, ça crée des confusions.
Tout à fait, ça crée des confusions. Les démocrates de Suède, d'abord, il faut, je pense, sortir de la caricature pour pouvoir analyser, à mon avis, de manière intéressante ce que ça veut dire. C'est effectivement un parti qui a des racines, au début, lorsqu'il est fondé en 88, néo-nazi, incontestablement. Mais en 2005, lorsque Jimmy Åkesson prend la tête du parti, il va rentrer dans une stratégie qui est familière pour les auditeurs français, puisque de la même manière que le Rassemblement national sous Le Pen va mener une stratégie dite de normalisation, c'est ce qu'il va essayer de faire à la tête des démocrates.
Sous Marine Le Pen.
Voilà, sous Marine Le Pen. Et donc, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un parti qui, effectivement, a un triptyque qui est immigration, sécurité, identité. C'est un parti qui est, je pense, incontestablement à l'extrême droite du champ politique suédois. En revanche, je pense que tous les analystes sont d'accord pour dire, et tous les Suédois, quelle que soit leur sensibilité politique, sont d'accord pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas un parti fasciste, ce n'est pas une menace sur la démocratie, il n'y a pas une menace sur l'état de droit en Suède. C'est un contraste, par exemple, à cet égard avec un pays comme la Hongrie. Et qu'en termes de politique étrangère, c'est un parti qui aussi a considérablement changé ses positions, puisque aujourd'hui, c'est un parti qui soutient l'adhésion de la Suède à l'OTAN. C'est un parti qui a condamné son leader, notamment très fermement Vladimir Poutine et l'invasion russe durant la guerre en Ukraine. Et c'est un parti qui ne demande plus le retrait de l'Union européenne et donc une sorte de sous-exit. Donc déjà, ça, c'est ce qui fait la colonne vertébrale du parti. Ensuite, c'est un parti qui n'a cessé d'augmenter dans le jeu politique suédois. En 2010, il rentre au Parlement pour la première fois avec 5,7% des voix. En 2014, il est à 12,9%. En 2018, 17,5%. Et en 2022, Il est aujourd'hui le deuxième parti de Suède, puisqu'il a 20,5% des voix. Parce qu'il faut quand même rappeler que le Parti social-démocrate, donc de gauche, a encore gagné ses élections, avec 30% des voix. Mais ensuite, comme tu l'as dit, c'est la coalition de droite qui arrivera à prendre le pouvoir s'ils arrivent à se mettre d'accord. Donc ça, c'est un petit peu le contexte. Et je pense qu'une des vraies questions, c'est de se demander aujourd'hui pourquoi le jeu politique suédois est allé vers la droite de manière si significative au cours des 10 dernières années, et pourquoi ce parti, qui était vu comme un parti avec lequel on ne voulait même pas discuter il y a encore 10 ans en Suède, se retrouve au cœur du jeu politique suédois aujourd'hui.
Oui, il y a deux points dans ce que tu dis qui me semblent particulièrement intéressants. Le premier, c'est sur la dénomination d'extrême droite. Alors, effectivement, c'est une question très délicate. Là, en l'occurrence, on ne parle pas du Moyen-Âge, on parle de 1988, il y a un peu plus de 30 ans, les racines néo-nazies sont quand même très récente, et c'est une génération, et c'est quand même, je trouve, très problématique, et ça en dit long aussi sur le sérieux et la colonne vertébrale de ces gens qui avaient des positions totalement extrêmes sur quasiment tous les sujets, notamment liés à la politique étrangère et le rapport à l'Europe, et puis qui finalement changent tout. Si on fait un parallèle avec la France, un des fondements de discours du Rassemblement National, y compris sous Marine Le Pen, c'était la sortie de l'euro, puis on oublie, puis on passe à autre chose. Donc je trouve que c'est quand même, ça en dit long sur le sérieux de ces gens-là. Mais la problématique aussi, c'est qu'à force de tout qualifier d'extrême droite, il n'y a plus rien d'extrême droite. On se rappelle quand même que, même si on était très petit, on a vu des archives, on disait quand même facho Chirac dans les années 80. Bon, on ne peut pas dire que Chirac représente ni l'extrême droite, ni même probablement la droite. Puis, sans parler des discours extrémistes de gauche, où si tu prends un jet privé ou si plus simplement et plus à la portée de nous tous, on fait un barbecue, tu es un fasciste et un fossoyeur de l'humanité. Donc il y a aussi une radicalisation dans les dénominations qui contribuent à un flou politique et qui finalement a totalement l'effet contraire de ce qui était escompté, banalise aussi l'extrême droite. C'est-à-dire que on parle de stratégie de dédiabolisation de la part des dirigeants de l'extrême droite, c'est vrai, mais à l'inverse, une stratégie de diabolisation à l'extrême de tout, d'une partie de la gauche et surtout de l'extrême gauche, contribue également à les dédiaboliser par un effet miroir qui, à mon avis, est encore plus massif. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est sur la Suède. Plus typiquement, surtout pour nous, vu de France, la Suède, mais on pourrait aussi parler du Danemark, c'était les berceaux mêmes d'une social-démocratie assez calme, assez apaisée. Or, on se rend compte que tout ça, ce tableau, vole en éclats, et notamment lié à la question de l'immigration, qui est quand même ce qui a bouleversé le plus le paysage de ces pays depuis 20 ans.
Oui, tout à fait. Tu sais, moi, je vais te raconter une anecdote. Quand j'étais diplomate pour l'Union européenne, donc à Washington, durant les années 2015-2016, c'était au moment de la crise syrienne, et notamment de la crise migratoire en Europe à l'époque. Et je me souviens, donc, chaque semaine, je réunissais les conseillers politiques des ambassadeurs des 27 États membres. À l'époque, on était même 28 avec le Royaume-Uni. Et je me souviens qu'au début de la crise, mon homologue suédoise était sur une position, qui était la position de son gouvernement, d'une position d'ouverture très forte. Elle partageait la position de l'Allemagne selon laquelle il fallait qu'on ouvre nos frontières. Et à cet égard, il faut quand même rappeler que la Suède, sur la période 2015-2016, a accueilli 240 000 demandeurs d'asile. C'est, pour donner une image à nos auditeurs, c'est comme si la France, durant la même période, avait accueilli 1 500 000 demandeurs d'asile. La Suède est le pays d'Europe qui a accueilli par habitant le plus grand nombre de demandeurs d'asile. Ce qui était fou, c'est de voir qu'en un an, la position du gouvernement suédois a complètement évolué. Et pourquoi ? Parce que la population, en fait, s'est radicalisée extrêmement vite. Et que le gouvernement suédois a vu que si très vite il ne mettait pas un terme à cette immigration massive, à ce moment-là, l'extrême droite, et déjà à l'époque les démocrates de Suède, arriveraient au pouvoir, ou tout du moins joueraient un rôle de plus en plus important. Donc ça, c'est effectivement un point, je pense, qu'il faut rappeler. Deuxièmement, il y a effectivement une montée, et la campagne législative en Suède a été marquée par ça, très forte de la violence dans le paysage politique suédois. La Suède, c'est un pays qui était très calme, tu l'as dit, et qui aujourd'hui est le pays où il y a le plus de fusillades par habitant en Suède. Depuis le début de l'année, il y a un peu plus de 45 personnes qui ont été tuées en Suède lors de fusillades. Et il y a eu des faits divers, notamment au début de l'été, ça a beaucoup marqué la campagne. Une femme et sa petite-fille de 5 ans sur qui on a tiré et qui ont été prises dans une guerre des gangs, dans un parc à jeux, au milieu d'une cité. Et donc, effectivement, c'est une société où le thème de la violence, de l'insécurité, comme en France, et c'est intéressant de voir les parallèles, et de plus en plus au cœur du jeu politique. Et puis, il faut le rappeler, il y avait eu des émeutes très importantes, on l'a oublié, mais dans les banlieues de Stockholm en 2013, il y a eu en 2018 des centaines de voitures brûlées à travers le pays, et aujourd'hui, ce qui frappe aussi dans la société suédoise, et quand tu parles des Suédois, c'est que ces phénomènes de violence ne sont plus concentrés uniquement dans certaines banlieues de Stockholm, Göteborg ou Malmö, mais c'est aussi dans des petites villes que tu vois ce phénomène se développer. Et ce qui est intéressant, c'est que même les sociaux-démocrates, donc, qui étaient au pouvoir jusqu'à récemment, et Magdalena Andersson, donc la première ministre suédoise, a dû dire durant la campagne, a dû un petit peu changer son discours, et a admis que finalement la société suédoise était de plus en plus une société de ségrégation, où tu avais deux sociétés qui vivaient en parallèle, et qu'il fallait absolument apporter une réponse à cela. Et je terminerai juste par quelque chose qui peut semblait anecdotique, mais qui est à mon avis une métaphore assez forte de ce qui se passe en Suède, c'est quand tu vas à Malmö. À Malmö, tu as un quartier assez connu, parce que historiquement très dur, une banlieue très dure de Malmö, qui s'appelle Rosengård, alors qui te parlera, parce que c'est là qu'est né et a grandi Zlatan Ibrahimovic.
Bien évidemment, bien évidemment.
Mais c'est aussi une banlieue qui est connue parce que c'est une banlieue très pauvre, 9 personnes sur 10 sont d'origine immigrée à Rosengård, et c'est la banlieue, c'est le quartier qui en Suède vote le plus pour le Parti social-démocrate de gauche, puisqu'il fait à peu près 90% le Parti social-démocrate. Tu traverses le périphérique et tu arrives dans un quartier résidentiel. Et qui fait son plus haut score dans le quartier résidentiel au niveau national? C'est les démocrates de Suède, c'est le parti d'extrême droite. Et en fait, dans cette concentration de quartiers à Malmö, tu as un petit peu l'image aujourd'hui de la société suédoise, une forme de ségrégation qu'on observe et que décrivait la première ministre suédoise.
Oui, mais si on prend les grandes évolutions, et c'est le cas en Suède, dans tous les grands pays d'Europe, sur 30, 40 ans, je mets de côté les bouleversements de type technique, bon, ça, bien évidemment, et je mets aussi de côté le dérèglement climatique, qui est une autre question. Mais les deux grandes évolutions de toute notre société en Europe de l'Ouest, enfin, c'est d'une part la construction européenne qui n'a cessé de progresser, avec notamment la monnaie commune, pas dans tous les pays, bien évidemment, et la Suède n'est pas concernée, mais c'est surtout le fait que nous sommes passés de sociétés, on va dire, assez uniformes sur le plan social et ethnique, à des sociétés multiculturelles. C'est un changement massif. Le but n'est pas de savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est quand même plutôt bien et qu'on en a quoi qu'il arrive, on en a besoin, et puis quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Mais c'est un changement massif qui bouleverse le quotidien des gens. Or, sur ce changement massif, les gens n'ont jamais été consultés. Alors, bien évidemment, il y a des mouvements migratoires, mais il y a aussi des décisions politiques qui étaient à l'origine de ça. Si on prend la France, le rapprochement familial. Or, sur ce phénomène qui est le plus important, alors qu'on se targue d'être des démocraties où l'importance de la parole du peuple est fondamentale, et bien finalement, les gens n'ont jamais été consultés. Malheureusement, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, il y ait un retour de boomerang très grave et très radical dans beaucoup de sociétés européennes.
Oui, et puis sur les pays scandinaves, il y a une autre dimension, tu le mentionnais. C'est vrai que ces pays, dans notre imaginaire collectif, sont très connus pour leur modèle d'État-providence. Mais souvent, en fait, on caricature ce modèle d'État-providence. Chez nos responsables politiques, on décrit souvent ce modèle d'État-providence comme simplement des États où il y a une dépense publique assez forte. En fait, quand tu t'intéresses à la Suède, au Danemark ou même à la Finlande, ces modèles d'État-providence ont été bâtis et ont pu fonctionner parce qu'en fait, il y a beaucoup de règles implicites dans ces sociétés qui sont respectées par le groupe dans son ensemble. Et notamment le fait que l'État-providence ne peut fonctionner que si tout le monde joue les règles du jeu. Et donc notamment qu'il y ait très peu de fraude sociale, que si tu te retrouves demain au chômage, tu bénéficies effectivement de mécanismes d'aide très forts, mais en contrepartie, tu fais des efforts très importants pour essayer immédiatement de retrouver un travail, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, ce qui déstabilise aussi ces sociétés, c'est qu'ils s'aperçoivent qu'il est de plus en plus dur de maintenir ces modèles d'État-providence avec les nouvelles populations qui sont arrivées en Suède et au Danemark. Et au Danemark, tu as exactement le même sujet. Et ce qui, en fait, caractérise ces pays, c'est que de la gauche du spectre politique à la droite du spectre politique, tout le monde est attaché au modèle d'État-providence et à une forme de social-démocratie, par exemple en Suède. Et donc, la vraie question qu'ils ont aujourd'hui aussi, c'est comment on arrive à maintenir ce modèle d'État-providence tout en faisant comprendre aux nouvelles populations qui arrivent, et donc ça suppose aussi de mieux les intégrer, qu'elles doivent jouer selon les règles du jeu de ce modèle. Sinon, il n'est pas tenable. Et c'est vrai qu'on l'a vu au Danemark, où il y a quelques années, le parti qui est l'équivalent un petit peu des démocrates de Suède au Danemark, même si les analogies sont toujours dangereuses, était arrivé aussi deuxième des élections législatives.
Oui, et puis c'est ce consensus social-démocrate a mis des décennies, voire même des siècles, pour arriver à maturation, pourrait-on dire. Ça passe par la Renaissance, par la Lumière, etc. Et effectivement, il y a un afflux de population dont ce n'est absolument pas l'histoire. Bon, ce n'est absolument pas l'histoire, et qui, limite, sont totalement étrangères à ceci, et ça mérite une intégration forte, ferme aussi, généreuse elle l'est, de fait, surtout en Suède et dans les pays où l'État-providence est fort, comme la France, mais il y a besoin de fermeté. Or, l'État-providence, c'est souvent de ses faiblesses, un peu le manque d'autorité et de courage.
Tout à fait. Alors, évidemment, il y a d'autres élections qui arrivent très bientôt dans les prochains jours en Europe. Ce sont les élections en Italie. Et le parallèle pourrait être tentant entre la Suède et l'Italie, puisqu'on va le voir, en Italie, le parti frère d'Italie est aussi en tête des sondages. A priori, Giorgia Meloni est bien placée pour remporter les prochaines élections. Pourtant, je pense que, d'abord, j'aimerais que tu nous rappelles un petit peu, toi qui connais bien et qui suis de près la politique italienne, un petit peu plus le contexte en détail, mais aussi peut-être voir quelles sont les différences entre justement la Suède et l'Italie, parce que je ne pense pas qu'on puisse simplement faire un parallèle de manière très simple.
Non, je crois que les différences sont énormes. Et alors après, je ne parle pas suédois, je n'ai pas l'opportunité de suivre la campagne en suédoise comme je suis la campagne italienne, mais bon, les différences culturelles, sans faire de stéréotypes, sont majeures. Moi, je prends beaucoup de plaisir à suivre la campagne électorale italienne, et parce que on ne s'ennuie pas, tout simplement. Elle est haute en couleurs. Il y a des personnages qui sont assez truculents dans tous les camps. Dans tous les camps, qui ont une vraie personnalité, en fait, un vrai charisme. Ça part souvent dans du n'importe quoi, alors que ce soit des premiers rôles ou des seconds rôles. Mais voilà, on ne s'ennuie pas. Quelques petites anecdotes. Je regarde beaucoup la télé italienne. J'ai souvenir, par exemple, d'un débat cet été entre, d'une part, le patron donc de gauche d'un grand média, il est réformiste, assez intellectuel de gauche, et qui discutait avec Salvini. Alors la discussion, donc le patron de la Lega. La discussion était plutôt cordiale, et à un moment donné, sa part, et c'est une parenthèse de quelques minutes, sur le foot. Et avec le patron de gauche, qui dit, écoute, je peux te pardonner d'être à la Ligue, mais j'ai du mal à te pardonner d'être supporter de Milan, parce que Salvini est supporter de Milan, ce qui fait un point commun entre lui, Letta et Berlusconi. Donc voilà, il y a quand même trois candidats majeurs qui sont pour Milan, donc je ferme aussi la parenthèse football, mais ce que je veux te dire, c'est que ça part dans tous les sens. T'as par exemple, sans parler de tête d'affiche, un type qui s'appelle Vittorio Sgarbi, qui est un ancien ministre de la Culture, qui a longtemps été de centre-droit, mais fait partie de la coalition, mais plus particulièrement du parti de Fratelli d'Italia, de Meloni, et il est candidat pour être sénateur. Bon, ben, c'est une bête de scène médiatique qui, sans aucune langue de bois, traite d'imbécile et s'énerve sur les plateaux. Il traite d'imbécile toutes les personnes qui ne pensent pas comme lui ou qui n'ont pas de culture, parce qu'il se trouve que c'est quand même quelqu'un qui est très cultivé, mais qui est sans filtre. Donc voilà, donc tu as un spectacle assez total. Alors, bien évidemment, je ne veux pas laisser penser que c'est le cirque, ça l'est en partie, mais il faut aussi dire qu'il y a quand même des idées, beaucoup d'idées qui sont dans cette campagne au premier plan. Et là, je peux imaginer certains de nos auditeurs, même avec bienveillance, mais français qui disent « Ah ben l'Italie, ce sont des clowneries, etc. », je tiens à dire aussi qu'au-delà de ce spectacle, sur le plan des idées, la campagne italienne est quand même beaucoup plus riche que la campagne française. En tout cas, si on parle de la campagne à laquelle on vient d'assister.
Alors justement, tu parles d'idées. Quelles sont quelques-unes des idées que tu trouves particulièrement intéressantes qui ont été mises en avant dans cette campagne ?
Ben, si on fait un parallèle avec le désert en termes d'idées qui a été la campagne législative et surtout présidentielle en France, ben, en Italie, au moins, tu as un débat sur la flat tax. qui est une mesure fiscale et qui c'est plus qu'un mécanisme technique. C'est un peu un changement radical qui a été d'ailleurs beaucoup testé avec succès dans beaucoup de pays, notamment les pays baltes en Europe, qui permet, enfin, on va pas en faire un débat sur la flat tax, mais qui permet par un taux d'imposition simplifié, unifié, d'avoir à la fois moins de fiscalité, mais également de paradoxalement, enfin par un faux paradoxe, de meilleures rentrées fiscales. Bon, c'est un débat. L'Europe, si on parle d'Europe, ben la question de l'Europe, on en parle, et on en parle sérieusement. Un truc qu'on ne verrait jamais en France, c'est que, par exemple, Silvio Berlusconi se revendique, il a fait plein de communications, on peut les voir sur Instagram, sur ce qu'on veut, où il se revendique comme membre du PPE. Et il revendique le bon bilan du PPE au niveau européen. J'ai pas souvenir, dans une campagne nationale française, un homme politique de droite ou de gauche se revendiquer d'une grande famille européenne. Donc l'Europe est quand même présente. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Il y a des questions, et puis il y a bien évidemment du pittoresque lié aussi à un scrutin, mais on en avait déjà parlé, qui est assez complexe, qui a une part d'élection au scrutin uninominal, et puis une part par liste, ce qui induit une proportionnelle. Ce qui fait que il y a des coalitions où ils sont où les différents partis sont à la fois partenaires et rivaux. Par exemple, si je prends que les partis de droite, la droite va probablement remporter ces élections. Lorsqu'il y a un scrutin uninominal pour les députés et sénateurs qui sont élus ainsi, là, un peu comme la NUPES en France, ils choisissent un candidat par circonscription. Voilà, donc ils ont fait leurs arrangements. En revanche, sur toute la partie à la proportionnelle, ben, chacun y va de son côté. Ce qui est très important, parce que si on sait que la coalition de droite a des grandes chances de l'emporter, on ne sait pas, en revanche, quelle va être exactement la répartition des sièges. Fratelli d'Italia est favori, mais ça induit des conséquences pour la suite, puisque qui dit régime parlementaire très fort comme l'Italie, dit possiblement des renversements d'alliances. Donc au début, ils vont peut-être gouverner ensemble, et puis après, on ne sait pas. Souviens-toi, lors des dernières élections, la Lega et le mouvement 5 étoiles, qui n'étaient pas dans la même coalition, avaient commencé par gouverner ensemble, et puis un an après, ça avait explosé. Donc ça, je trouve ça très intéressant.
Et c'est vrai que c'est une élection qui est aussi extrêmement suivie au niveau européen, parce que l'Italie est quand même une des puissances majeures, un des États membres majeurs au niveau de l'Union européenne, que c'est un pays qui, sous Mario Draghi, avait entamé un certain nombre de réformes, avait bâti aussi une alliance assez forte. On l'avait mentionné avec la France à travers le traité du Quirinal. Il y avait donc une alliance, un axe Paris-Rome qui était assez fort au niveau européen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça soulève certaines inquiétudes sur la capacité demain de Rome à continuer de jouer ce rôle moteur au niveau européen. Il y a également, et ça c'est un contraste avec ce qu'on disait sur la Suède, il y a eu aussi plus d'ambiguïté chez certains partis italiens et notamment dans la future coalition de droite à l'égard de Vladimir Poutine. Et quand je parle d'ambiguïté, c'est un euphémisme. Notamment, il y a eu des liens très forts entre la Lega et Matteo Salvini et le parti Russie Unie de Vladimir Poutine, ce qui soulève aussi des questions assez fortes au cas où ce parti serait dans la coalition de droite au pouvoir. Et on voit d'ailleurs un Salvini qui critique beaucoup les sanctions qui ont été adoptées par l'Europe à l'égard de la Russie. Et puis plus généralement, tu as un discours assez anti-européen qui a été porté par ce leader, mais aussi par Giorgia Meloni, même si elle l'a modéré durant la campagne. Et c'est vrai que dans un contexte où l'Italie, il faut le rappeler, va être le principal bénéficiaire du fonds de relance européen, c'est vrai que ça soulève un certain nombre de questions à Bruxelles, mais aussi dans les autres capitales européennes. Toi, comment tu vois cette situation? Tu l'as dit, il y a à la fois un débat qui est riche et intéressant sur l'Europe et nécessaire, je pense, mais en même temps, est-ce que tu penses qu'on risque de retomber dans une situation où l'Italie pourrait perdre une forme de crédibilité qu'elle avait retrouvée avec Draghi sur la scène européenne ?
Il y a toujours un risque. Après, ce sont des fins politiques, hein, tous. Je veux dire, ils peuvent quand même évoluer assez significativement sur le terrain idéologique. Il y a la question russe, effectivement, qui est importante et qui n'est pas sans danger. Mais tout de même, on sait qu'ils s'adapteront. C'est un enjeu de la campagne, des derniers jours de campagne. Un enjeu va être aussi le score dans cette coalition de droite du parti de Berlusconi, Forza Italia, qui lui, même s'il y a eu des liens par le passé personnels entre Berlusconi et Poutine, aujourd'hui ne montre absolument aucune ambiguïté. Se revendique très européen, très atlantiste. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, qui joue totalement la carte de l'OTAN et d'une Europe presque, je vais dire, fédéraliste. Mais je veux dire, ils sont très très européistes, beaucoup plus que de l'Est, si on fait une comparaison, LR en France. C'est vraiment l'héritage aussi du PPE et puis des derniers restes de la démocratie chrétienne côté droit. Donc ça, c'est intéressant. On pourrait même se demander comment des partis aussi opposés sur ces questions-là peuvent être dans la même coalition. Mais bon, ils sont dans la même coalition parce qu'on sait bien qu'une fois qu'ils seront au pouvoir, il y aura une forme de responsabilité pour garder l'héritage européen italien toujours d'actualité. Mais d'un point de vue très très électoral, le poids du parti Forza Italia dans cette coalition-là va être clé. C'est très difficile d'appliquer les grilles de lecture de la politique française et la politique italienne. On va pas revenir sur une discussion sur ce qui est de droite ou d'extrême droite, mais le parti de Giorgia Meloni, effectivement, historiquement, il est lié à l'extrême droite, mais également, il est lié à ce parti des années 2000, à ce leader qui était Gianfranco Fini, qui était le leader d'un parti qui s'appelait Alleanza Nazionale, qu'on comparait souvent au Front National, mais à l'inverse du Front National, c'est un parti qui a fini centriste. Donc, dans ce parti-là, tu as effectivement des gens d'extrême droite, probablement, mais tu as aussi des gens qui viennent un peu du centre. Et dernier point, lors de la dernière législature européenne, il n'y avait pas beaucoup d'élus à ce moment-là, Fratelli d'Italia, mais leurs quelques élus siégeaient au Parlement avec les députés conservateurs anglais. Tu vois, qui sont pas des néo-nazis non plus. Donc, c'est pour ça, c'est très difficile d'appliquer ces lectures-là, même si la tentation, médiatiquement, vue de France, de dire que Meloni serait la Marine Le Pen italienne, est tentante. Mais ça marche pas comme ça.
Merci, Romain. Alors, en analysant la campagne italienne, tu nous as rappelé ton amour du football et du Milan. Et le temps étant venu désormais de parler de nos coups de cœur de la semaine, je crois que tu veux d'ailleurs nous parler d'un documentaire consacré à une grande figure du football.
Giroud est à une ville, Auxerre. D'ailleurs, toujours en lien avec Milan, un des derniers matchs européens d'Auxerre, j'avais eu la chance de le voir, c'était en 2010, un match de Champions League Auxerre-Milan. Mais je voulais te parler aujourd'hui d'un documentaire très réussi sur Amazon Prime, celui donc de Lionel Rosso, consacré à Giroud, et qui s'intitule de manière un peu pompeuse, mais non sans justification, « Giroud, une histoire de France ». Alors, Giroud, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le légendaire entraîneur d'Auxerre, qu'il a entraîné pendant plus de 40 ans, menant ce club du niveau amateur à la Champions League, enfin la participation à la Champions League s'entend, en passant par un titre de champion de France en 1996, ainsi que quelques victoires en Coupe de France. Donc c'est exceptionnel, je veux dire, c'est Rocky, si on veut le comparer avec la boxe. Donc un tel parcours, dont on aurait du mal à imaginer qu'il a vraiment existé, si on n'avait pas vécu de nos propres yeux, méritait un beau documentaire, et c'est chose faite. Alors bien sûr, on peut penser qu'il s'agit d'une ode à un football qui n'existe plus, celui qui permettait à des clubs de villes moyennes, comme Auxerre, d'accéder au sommet du football. Un football provincial, très familial, populaire, qui, avec peu de moyens, mais énormément d'idées et parfois même de roublardise, arrivait à réaliser des exploits. Et dans le même genre, qui peut imaginer aujourd'hui que Bastia, et ce fut le cas dans les années 70, a disputé une finale de Coupe d'Europe, ce qui serait aujourd'hui l'équivalent de l'Europa League. Donc c'était des exploits exceptionnels, des épopées. Mais ce documentaire est plein d'anecdotes fameuses sur Giroud, se comportant comme un deuxième père pour nombre de jeunes joueurs qu'il accueillait, sur la manière dont il surveillait toutes les boîtes de nuit de la région pour vérifier qu'ils ne sortent pas et qu'ils aient totalement la fête au football. C'était un peu la figure qu'on connaissait dans les guignols de l'info. Là. C'était une des marionnettes un peu phare, Giroud. Et puis on parle aussi d'un Giroud extrêmement malin, capable de détecter des jeunes joueurs et de les convaincre de rejoindre son club en insistant notamment sur les études, c'est quand même remarquable, et sur le climat familial du club. Et puis on y voit, je pense que ça te plairait aussi, des personnages truculents comme Gérard Bourgoin, l'un des trois patrons du club avec Giroud, et le président Hamel, donc Bourgoin, grande gueule, industriel du poulet, flambeur, qui investit dans des jets privés qu'il pilote lui-même afin de ramener ses joueurs après les déplacements à l'extérieur pour qu'ils perdent le moins de temps possible en transport, bon, qui passerait pour aujourd'hui pour un criminel de guerre, cela va de soi. Mais enfin, Bourgoin qui ramène aussi Depardieu dans le giron du club. Et oui, Depardieu qui suivra le club dans son épopée de 96 et qui partira avec Bourgoin à Cuba rencontrer Castro à la recherche du pétrole. Bref.
C'était la grande époque.
Ouais. C'était la grande aventure. Ça, c'est des existences aventurières. Donc, on alterne entre sublime et grotesque, parfois. Mais ce que je veux retenir, surtout de ce beau documentaire, au-delà des anecdotes, c'est que c'est une éloge de la passion du foot et du travail. Parce que derrière cette longévité et ces résultats, il y a un immense professionnalisme et une consécration au travail qui force l'admiration. Ce que résume, et je finirai là-dessus, par une phrase de Cantona dans le documentaire, qui est un ancien joueur d'Auxerre et un des témoins de ce documentaire, qui est beaucoup plus pertinent lorsqu'il parle de football que de banque et de capitalisme, et qui dit « Le travail t'amène à la confiance ». Et avec la confiance, tu finis par t'amuser. C'est une leçon qui va bien au-delà du football.
Merci Romain.
Et toi Jérémy, on va rester dans le terroir. Tu voulais parler de restaurants et de grande gastronomie.
Oui, ça va peut-être surprendre nos auditeurs, mais je voulais partager un documentaire qui est aujourd'hui visible sur France 5, qui est intitulé « Les restos routiers sont toujours sympas », qui est un très beau documentaire sur lequel je suis tombé par hasard et qui a été réalisé en 2020 par Sophie Romilla. Alors, les restos routiers, Romain, tu sais, ce sont ces restos au bord des routes avec ce célèbre écusson bleu, blanc, rouge, qui ont été créés en 1934. Et pourquoi j'ai voulu en parler ? Parce que ces restos qui étaient après-guerre un peu plus de 4500 en France, aujourd'hui il y en a à peine 700. Alors tu vas me dire, est-ce que c'est si grave ? Ben en fait, tu t'aperçois dans ce documentaire, et c'est ce que montre très bien Sophie Romilla, c'est que quand tu es un chauffeur routier, tu es souvent loin de ta famille, c'est un job qui est dur, tu es seul, etc. Le seul moment dans ta journée, un petit peu de confort, où tu peux échanger avec des gens, où tu peux avoir une forme de dignité, c'est le moment où tu vas t'arrêter pour manger. Or, les restos routiers, c'était fait pour ça. C'était ces moments où le tenant du resto routier avait toujours un mot sympa pour toi, où tu retrouvais d'autres chauffeurs routiers, tu partageais tes peines, tes difficultés de la journée, tes joies, etc. Tu passais un bon moment. Et surtout, tu mangeais bien et tu avais accès à un menu complet à 14 €. 14 €, pourquoi ? Parce que c'est indexé sur l'indemnité de repas des chauffeurs routiers, et tu avais accès à des toilettes et des douches propres, et à un repas complet. Et malheureusement, aujourd'hui, avec la fermeture de nombreux restos routiers, le quotidien de plus en plus de chauffeurs routiers, c'est de s'arrêter sur des aires d'autoroute ou complètement anonymes, où tu vas acheter un sandwich sous vide, industriel, dégoûtant, où tu vas manger seul, attablé, même pas attablé, enfin debout face à une machine à café, sans parler à personne. Parfois, tu passes dans des aires d'autoroute, tu n'as même plus de caissier physique, c'est des caisses automatiques. Et je trouve qu'en fait, à travers ce documentaire, c'est une métaphore de choses dont on a souvent parlé, nous, dans nos épisodes précédents. C'est un peu une disparition du lien social. Et je pense qu'on dit souvent « Ah, les Français veulent plus de pouvoir d'achat, etc. » Mais d'abord, je pense que ce que veulent beaucoup de gens, et ce qu'on avait aussi ressenti au moment de la crise des Gilets jaunes, c'est que les gens, ils veulent recréer de la sociabilité, ils veulent revivre avec dignité. Et pour de nombreux chauffeurs routiers qui sont loin de leur famille, qui sont dans des situations difficiles, cette dignité, c'était de s'arrêter dans un petit restaurant où ils savaient qu'ils allaient bien manger, ils allaient passer un bon moment, ils allaient un moment s'échapper de leur routine quotidienne et puis pouvoir échanger avec d'autres personnes. Et ce que ce documentaire montre aussi bien, c'est que les restos routiers, malheureusement, c'est de plus en plus difficile pour eux parce que les marges sont très faibles, parce que les horaires quand tu tiens un resto routier sont extrêmement durs et parce que parfois, tu as une administration tatillonne qui t'impose de nouvelles taxes, un petit peu sorties de nulle part, qui en plus ne les aide pas. Alors, il y a quelques motifs d'espoir. Il y a notamment dans l'heure, ce jeune couple qui se lance dans l'aventure. Tu as également dans le Vaucluse une femme et son mari qui tiennent un resto routier et qui, elle arrive à faire une cuisine absolument merveilleuse avec des produits locaux et tout ça en respectant le faible prix du menu parce que, à force de négociation avec les producteurs locaux, elle arrive à quelque chose. Donc, c'est à la fois des très belles histoires et je trouve que ce documentaire, à travers l'histoire des restos routiers, dit beaucoup de certains mots de notre pays, mais aussi du fait qu'il y a un motif d'espoir parce que partout sur notre territoire, il y a quand même des gens qui se battent pour essayer d'améliorer les choses.
Eh bien, merci Jérémy, tu nous as donné faim. Je précise qu'il y a aussi quelques restaurants routiers, de manière surprenante, mais aussi dans Paris, dont un qui s'appelle Au Bon Cru, métro Voltaire. J'y allais pas mal et c'est très bon. Là, tu m'as donné envie d'y aller tout de suite. Merci Jérémy.
Merci Romain.
Merci à nos auditeurs. Et puis, à la semaine prochaine.